Mesdames, messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver encore ce mardi. Après 4 semaines d'absence, je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous. Et ce soir, nous allons parler communication digitale. Je reçois pour vous Jocelyne Kiambi. Elle est experte en communication digitale. Elle possède également une agence qui évolue dans ces secteurs. Madame Jocelyne, bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Le plus grand plaisir est nôtre, en tout cas, de vous recevoir dans YouJob, même si vous allez remarquer, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez en ce moment, que ce n'est pas en présentiel que nous la recevons. Il faut plusieurs milliers de kilomètres pour la joindre. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes experte en communication digitale, c'est dans ces secteurs que vous évoluez et nous vous recevons. Mais ça peut paraître aussi un peu ambigu aujourd'hui de définir ces concepts. En quoi se résume exactement le travail de celui qui exerce ses métiers?
Alors, l'expert en communication digitale, c'est vraiment celui qui va faire le lien entre l'entreprise, la marque ou une personnalité publique et les internautes. Donc, le but, c'est vraiment de diffuser en fait une image positive de la marque, de l'entreprise ou la personnalité que vous représentez auprès des gens et à travers les réseaux sociaux ou tout autre support digital.
Donc, tout ce qui concerne les digitales en termes de communication, en termes de gestion de communauté, ça rentre dans ces sens-là. Est-ce que ça va aussi dans l'idée de conseiller l'image qu'il faut avoir sur Internet?
Oui, ça va aussi dans ce côté en fait, de gestion d'image. Parce que comme on le sait, finalement, bon, tout le monde est capable de communiquer sur Internet. Hein, on a tous un compte sur Facebook ou autre. Mais quand on veut faire ça de manière professionnelle, qu'on veut soit gagner de l'argent, donc développer son chiffre d'affaires, soit toucher ses fans, eh bien, il faut venir avec un message, avec une image, des photos, des vidéos, en fait, qui seront travaillées de manière à atteindre son objectif. Donc, ça entre aussi là-dedans.
Alors ça, il faut certainement faire des études. Donc on croit qu'il y a maintenant plusieurs autres métiers dans ces secteurs et qui se développent déjà. Vous avez une agence et c'est quoi vos principaux axes d'intervention?
Alors moi, je fais autant de la stratégie vraiment de communication où c'est plutôt moi qui va vraiment réfléchir en fait à tout cet aspect stratégique. Bon, j'ai aussi quelques collaborateurs qui travaillent avec moi en tant que freelance, donc en indépendant. Il y a aussi tout ce qui sera coaching. J'ai beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs indépendants qui ont envie de gérer eux-mêmes leur présence sur les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, je vais les coacher, je vais les suivre pendant 3 mois, 6 mois ou 9 mois. Afin qu'on puisse mettre en place une stratégie de communication, des visuels, et puis aussi les aider en fait à prendre en charge vraiment ces plateformes, parce que finalement quand on est pro, ça nous paraît facile, mais c'est pas simple pour tout le monde. Donc ce côté un peu de coaching, je le fais aussi. Je fais aussi de la formation en entreprise, parce qu'il y a une chose qu'on a remarqué en fait depuis le Covid, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu faire le pas vers le digital, mais elles n'ont pas les ressources, qu'elles soient humaines ou financières, pour engager des personnes à l'interne et faire vraiment cette communication digitale. Souvent dans les entreprises, on a des experts en marketing, des communications, mais c'est du marketing classique et ils ne savent pas y faire avec le digital. Donc moi, j'interviens aussi souvent pour faire de la formation en interne. Et puis, après, il y a toutes sortes de choses. Ça peut être la création de contenu, ça peut être aussi la gestion de pages, comme on dit, le community management, et puis toutes sortes de services que le client pourrait me demander.
Alors, est-ce qu'il y a un écart réel entre ceux qui exercent le marketing classique et vous qui êtes dans le digital? Est-ce qu'il faut forcément recourir à vous ou bien, puisqu'on maîtrise bien le marketing classique, on peut mieux aussi avancer sur les réseaux sociaux?
Alors, je ne vais pas dire qu'il faut forcément faire recours à moi, par exemple, ou à un autre expert. Mais par contre, moi, ce que je remarque, c'est que les personnes qui sont uniquement dans le marketing classique, leur problème quand elles font le pas vers le digital, c'est qu'elles n'ont pas les codes du digital. Parce qu'elles ne savent pas, en fait, comment est-ce qu'on parle sur le digital. Elles ne savent pas que sur le digital, ce qui va compter, c'est vraiment l'aspect communauté. Donc, on va vouloir créer des liens, on va vouloir être proche avec les gens, il faut répondre aux commentaires, il faut montrer une certaine sympathie. Alors que dans le marketing classique, finalement, vous avez une affiche dans la rue et puis il n'y a aucune interaction avec l'audience. Il n'y a pas ce côté-là de communauté et ça, c'est quelque chose que les marketeurs traditionnels, en fait, ne comprennent pas encore, en tout cas selon mon constat.
Ok, donc la différence réside à ces niveaux-là. Et vous, vous êtes en Suisse actuellement. Est-ce que le marché, c'est le marché suisse ou le marché est international, africain, européen qui vous intéresse? Et est-ce que ça a le même enjeu?
Bah alors, c'est une très bonne question, je trouve, parce que c'est vrai que moi, je suis en Suisse. Et en Suisse, ça peut paraître un peu bizarre que je vous dise ça comme ça, mais c'est pas encore quelque chose de très développé, le digital, enfin, en tout cas, la communication digitale. Mmh. On est à la pointe de la technologie, mais je sais pas pourquoi, en Suisse, on est toujours un peu en retard par rapport à Londres ou la France ou comme ça. Donc, je vise autant le marché suisse parce que je suis ici et il y a beaucoup d'opportunités, mais je vise aussi les pays limitrophes, comme par exemple la France, parce que je suis vraiment à la frontière de la France et il y a aussi beaucoup d'opportunités là-bas. Mais aussi l'Afrique francophone, avec qui j'ai déjà travaillé un petit peu en indépendante et ça me ferait beaucoup, ça me ferait vraiment plaisir en fait de travailler aussi avec l'Afrique.
Alors, puisqu'on parle de communication digitale, mais il y a un terme qui est déjà revenu pas moins de deux fois, c'est le marketing. Alors, sur l'un de vos derniers posts, vous avez établi une différence entre la communication digitale et le marketing digital. Est-ce que le second n'est pas inclus dans le premier
Alors oui, alors pour moi, je pense que moi je vois ça comme ça. On a le marketing qui est la grande discipline, on va dire. Et puis dedans, comme dans tout, il y a toujours des petits départements ou en tout cas des sous-départements, on va dire, pour pas croiser les uns. Donc il y a la communication. Pour moi, elle fait partie du marketing, mais depuis le temps que je travaille là-dedans, je me rends compte qu'il y a quand même une différence. C'est-à-dire que dans le marketing, on est vraiment dans cet aspect promotion. Le but, c'est de faire des ventes, c'est de développer le chiffre d'affaires. Mais dans la communication, on n'est pas toujours dans un but de développer son chiffre d'affaires. Des fois, je peux juste communiquer parce que je veux me faire connaître. Donc là, je suis dans un but de notoriété, mais pas forcément de vente. C'est par exemple le cas, je sais pas, d'un artiste, au début de sa carrière, il va beaucoup communiquer pour qu'on puisse le reconnaître. Mais après, au bout d'un moment, bah, va falloir faire aussi d'autres actions en complément pour vendre ses albums, ses disques, enfin, peu importe. Donc, c'est vraiment deux choses qui font partie de la même famille, qui sont complémentaires. Mais quand on travaille dedans, on se rend compte que chacun se spécialise aussi dans des canaux différents. Et moi, je suis plus dans tout ce qui est développement de notoriété, de visibilité.
Ok. Et les entreprises commerciales aussi ont besoin de développer leur notoriété et en même temps de vendre. Donc, ils recourent à ces deux disciplines en même temps.
Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est vrai que la plupart des agences, quand on regarde des agences qui se disent... moi, je me suis positionnée en tant qu'agence de communication digitale parce que j'avais envie vraiment de me spécifier dans cette niche-là parce que c'est là-dedans que j'excelle. Mais on remarque finalement que les agences de marketing, en général, elles font les deux.
Ok. Ok, donc les agences, des comme le font en tout cas de façon interliée. Alors aujourd'hui la communication digitale, c'est communiquer sur les réseaux sociaux. Mais chaque réseau a ses réalités, je pense. Alors pour exercer ce métier, est-ce qu'il faut nécessairement avoir une maîtrise de tous les réseaux sociaux?
Alors je pense que ce qu'il faut surtout avoir, c'est avoir une connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux de manière générale. Parce que quand on est, quand ça fait déjà des années qu'on est sur les réseaux sociaux, enfin moi, en tant que, si on m'enlève du côté experte, en tant qu'utilisatrice, j'utilise les réseaux sociaux depuis l'adolescence. Donc même avant Facebook, il y avait déjà d'autres plateformes comme i5, MySpace qu'on utilisait. Et si on regarde, c'est toujours la même chose. Le principe, c'est toujours ce côté communauté qu'il faut créer, c'est de créer des relations, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible, de se rendre visible, etc. Donc, on est toujours dans cet aspect de visibilité communauté. C'est vraiment les deux bases de chaque réseau social. Et je pense que quand on a déjà les compétences pour se rendre visible, créer des messages, créer des stratégies, savoir écrire et puis savoir fédérer les gens autour d'une thématique, on peut se débrouiller sur n'importe quel réseau social qui va sortir demain.
Donc au départ, il faut avoir quand même une connaissance générale de comment les réseaux sociaux fonctionnent. Et chacun a la liberté donc de se spécialiser sur un réseau social donné. Et ça, c'est pas un risque ou un problème face à la clientèle.
Alors moi, comme je l'ai dit, je suis pas forcément, je me spécialise pas forcément sur un seul réseau social. Je préfère laisser le champ ouvert. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont consultants Instagram, consultants LinkedIn, etc. Si on me demande à moi, vu que vous me demandez à moi, pour moi, je trouve que c'est pas forcément bon de rester que sur un seul réseau social parce qu'on se limite et puis on sait que finalement, on n'a aucune maîtrise sur la plateforme en soi. Donc, si demain, LinkedIn ferme, ça veut dire que mon métier aussi, c'est fini en fait. J'ai plus de clients, il n'y a plus rien. D'où le fait que je dis, il faut avoir une connaissance du fonctionnement général, on va dire, des réseaux sociaux. Je veux aussi ajouter du fonctionnement de la communication de manière générale, même d'avoir déjà une formation, je pense, de base, c'est pas mal. Et ensuite, on peut se débrouiller sur tout. Mais c'est vrai que quand on se ferme et on se dit, moi, je suis seulement spécialiste d'Instagram, d'un point de vue business, c'est compliqué parce que si demain Instagram plante, c'est fini, quoi. Donc, je pense que c'est quand même bien de rester ouvert et puis d'essayer toujours de comprendre les nouvelles plateformes, même si tout d'un coup, nous-mêmes, on ne va pas communiquer là-dessus.
Mais est-ce qu'il y a un réseau social quand même qui a une certaine prédominance ou de façon générale, les marchés, et puis pour les entreprises, en tout cas, c'est plus prolifique. Est-ce qu'il y a un réseau social meilleur?
Alors, un réseau social meilleur ou qui marcherait mieux pour les entreprises, je vais dire non et je vais m'expliquer pourquoi. Simplement parce que ça dépend de l'audience qu'on veut toucher. Ça dépend de sa cible, comme on dit, ou des clients, par exemple, qu'on aimerait toucher. Et puis, ça dépend aussi de notre situation géographique. Parce que, par exemple, ici en Suisse, ou en tout cas en Europe, Facebook, c'est un réseau social qui a tendance à perdre un peu de la vitesse. Les gens considèrent que Facebook, c'est pour les vieux, etc. Donc, on va plutôt sur d'autres réseaux. Et moi, j'ai remarqué que, par exemple, en Afrique, Facebook, ça cartonne encore.
Encore, oui.
Donc, si par exemple, aujourd'hui, je communique pour une entreprise qui est africaine ou qui est sur le territoire africain, eh bien, et puis que je me dis, non, mais on ne va pas faire Facebook parce que ça ne marche pas, ben, en fait, je suis à côté de la plaque. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours analyser en fonction de sa cible, en fonction de ses objectifs, et puis voilà, après de s'adapter en fait par rapport à ça. Mais sinon, c'est vrai que de manière générale, cette année ou ces deux dernières années, on voit que LinkedIn a tendance à prendre le dessus parce que on est vraiment dans cet aspect très professionnel qu'on retrouve pas forcément sur d'autres réseaux, et ça fait que finalement, c'est peut-être à ce jour le seul réseau social au niveau professionnel qui relie à peu près tout le monde, en fait, peu importe le continent.
Oui, donc ça va dans ces sens-là. Et pour s'attirer quand même du marché, parce que ce n'est pas aussi facile, mais non, d'avoir du marché, il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers le digital. Et sur LinkedIn, il suffit de faire un petit passage sur LinkedIn pour voir sur la bio, c'est tout le monde, je vais booster, je vais transformer. Mais après, est-ce que c'est cette formule qu'il faut utiliser pour s'attirer la clientèle?
Ben, c'est un peu le problème, en fait. C'est finalement, aujourd'hui, tout le monde veut faire un peu la même chose et surtout, tout le monde veut se vendre de la même manière parce que on a vu que ça a marché chez un tel, on a vu que le voisin fait comme ci et puis ça va pour lui. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment trouver sa propre identité. Il faut trouver son identité, trouver son propre message et puis essayer de trouver aussi sa particularité, en fait. Parce que c'est, en tout cas, ça, c'est mon avis, mais je pense que on est tous différents, on a tous quelque chose à apporter, on a tous des expériences différentes, une petite spécialisation dans laquelle on peut exceller. Et je pense que sur cette base-là, si on prenait un petit peu plus de temps pour travailler justement notre message, notre image de marque, etc., notre branding, comme on dit, ben, on arriverait moins à ce genre de situation où tout le monde parle du fait qu'on veut booster, on veut faire ci, on veut faire ça. Et puis aussi, ce genre de message, pour moi, ça induit aussi des fois les entreprises ou les clients en erreur, parce qu'on a l'impression que la seule chose en fait qu'on vient faire sur les réseaux sociaux, c'est juste, ouais, il faut booster, il faut avoir un maximum d'abonnés, il faut faire un maximum de chiffre d'affaires ou quoi. Alors que, comme je le disais en fait il n'y a pas très longtemps dans un post sur LinkedIn, il y a plusieurs objectifs en fait. Et je pense qu'il faut aussi savoir exploiter chaque plateforme selon les différents objectifs qu'on va poursuivre.
Et c'est important donc pour évoluer, pour grandir et puis avoir des grands marchés dans ce secteur, de se faire un profil sur ces différents réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on est obligé de maîtriser quand même les graphismes dans ces secteurs, puisqu'on parle digital et puis on voit digital, c'est lié plus à la communication visuelle aussi. Est-ce qu'on est obligé ou bien on peut avoir des connaissances, des notions, mais on se tape un peu du graphisme et toutes ces notions.
Alors, avoir soi-même, en tant qu'expert en communication digitale, avoir soi-même des compétences de graphisme, je pense que ce n'est pas une obligation, parce qu'on peut recourir à un graphiste externe, et puis, il n'y a pas tout le monde, en fait, qui a cette sensibilité-là au niveau de tout ce qui est graphisme, etc. Par contre, je pense que quand on a quand même quelques notions, c'est déjà bien parce qu'on peut être amené dans certaines situations. Moi, à plusieurs reprises, j'ai travaillé dans des entreprises où l'équipe de communication, c'était que moi. Donc, il n'y avait personne d'autre. Je pouvais pas, on n'avait pas de budget non plus.
Du coup, ça gonfle les salaires personnels.
Si seulement. Mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué, donc quand on a aucune notion ça peut être difficile, parce que aussi une des réalités de la communication digitale, c'est que c'est encore un métier qui est méconnu, et donc même quand on travaille en tant que salarié, beaucoup d'entreprises, d'employeurs voient ça en fait comme quelque chose de moindre ou de moindre importance en fait que les autres métiers dont il aura besoin pour faire fonctionner son entreprise. Donc, ils ne vont pas mettre beaucoup d'argent là-dedans. Mmh. Et on va voir que les équipes, elles vont être très petites, mais on va leur demander de faire l'impossible. En fait.
Donc, il y a un côté positif aussi, un côté négatif. Mais ça, c'est pour dire qu'il y a déjà, dans la communication digitale, beaucoup de métiers. Mais de mon côté, je pense qu'il y a des termes qui sont encore presque incompris. Je pense que ce serait intéressant de nous éclairer. Aujourd'hui, on parle de chargé de communication digitale, on parle de community manager, on parle aussi des créateurs de contenu, et ça, la liste est très longue. C'est quoi la différence principalement de ces trois mots, bien de ces trois agences, il faut le dire ainsi, un chargé de communication numérique, un community manager et un créateur de contenu?
Alors, c'est aussi une très bonne question, parce que les gens font beaucoup l'amalgame en fait entre ces trois termes. Donc, le chargé de communication, il sera beaucoup plus en charge de tout ce qui est vraiment stratégique, de définir le message, définir la stratégie, définir quelle sera la direction, on va dire, dans laquelle on va partir, l'image qu'il va falloir avoir. Donc vraiment, tout ce côté un peu plus réflexion, si je peux dire, le chargé de communication, c'est plus lui qui va porter tout ça. Après, on a le community manager, et lui, c'est plutôt celui qui va gérer la plateforme au quotidien. Donc, exemple, j'ai un compte Instagram, je suis le community manager, enfin la community manager du compte Instagram. Ça veut dire que je vais publier les photos, publier les vidéos, je vais répondre aux commentaires, je vais répondre aux messages que je vais recevoir en privé, des choses comme ça. Mais ça ne signifie pas que pour faire toutes ces actions-là, que c'est moi qui a mis en place cette stratégie-là. Ça ne signifie pas non plus que c'est moi qui ai créé ces contenus-là. Parce que pour un community manager, dans certaines structures, c'est lui qui va aussi créer les contenus. Donc c'est lui qui va rédiger les textes, c'est lui qui va prendre les photos, c'est lui qui va faire les vidéos ou s'assurer que les photos et les vidéos soient bien faites. Mais dans d'autres contextes, on aura quelqu'un d'autre qui va créer tout ce contenu. Et puis lui, il sera juste là pour publier et puis gérer tout ce qui va se passer après sur la page avec la communauté. Le créateur de contenu, ben, ça peut être quelqu'un qui fait des vidéos, ça peut être quelqu'un qui écrit du texte, quelqu'un qui fait des podcasts, quelqu'un qui prend des photos. Donc, c'est vraiment lui qui va être en charge, en fait, d'élaborer tout ce contenu qu'après, il pourra donner au community manager pour que ça soit posté.
Donc, beaucoup de sous-métiers déjà dans ces grands métiers, mais tous ces métiers sont aussi grands parce que chacun gagne en sa manière. Mais alors, il y a beaucoup de questions qui me reviennent après cette question. La première de choses, vous avez dit que le chargé de communication numérique, c'est celui qui élabore la stratégie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tout simplement avoir un chargé de communication numérique sans chercher même à avoir un chargé de communication classique comme on les a souvent dans les entreprises.
Oui, on peut, en fait, on peut même avoir les deux. Dans certaines entreprises, dans des grands groupes, c'est encore plus spécifique. On a quelqu'un qui va faire que la stratégie réseaux sociaux, on a quelqu'un qui va être même encore au-dessus de lui et qui va faire toute la stratégie de communication et puis... Enfin, c'est vraiment, ça peut devenir après des sous-sections très spécifiques. Donc oui, on peut avoir un chargé de communication numérique uniquement.
Est-ce que dans l'allure où vont les choses, l'un ne va pas s'effacer au profit de l'autre? Est-ce que le chargé de communication numérique, vu qu'il maîtrise et le numérique, il peut aussi avoir certaines connaissances sur la communication en général? Est-ce que ces métiers-là, finalement, ne viendra pas étouffer, effacer celui des communicateurs classiques?
Alors, je pense que c'est encore une bonne question, décidément. Mais c'est vrai que tout ce qui est numérique aujourd'hui, on a l'impression que ça vient en concurrence avec le traditionnel. Pour moi, personnellement, je trouve que ça vient en complément et qu'au contraire, en fait, les personnes qui sont vraiment dans le traditionnel devraient se former, se mettre à jour. Enfin, je sais que quand on a déjà appris un métier, qu'on a étudié, etc., ça fait des années qu'on est dans son métier, on a toujours un peu cet orgueil en fait professionnel où on veut pas aller se former. Mais je pense que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, ça va trop vite et il faut constamment se former. Donc, si on a quelqu'un peut-être qui dans tout ce qui est traditionnel et qui nous écoute, moi, je lui conseillerais vraiment de ne pas avoir honte, on va dire, et puis d'ajouter le côté digital si ça l'intéresse aussi, à son métier, à ses compétences. Parce que comme ça, en fait, on arrivera vraiment à déjà mieux se comprendre dans les équipes. Et puis aussi, au lieu de faire un espèce de combat, mais vraiment à unir les deux et puis à comprendre que le digital, c'est juste une partie, en fait, de la communication, mais ça ne vient pas la concurrencer.
Ok, je pense que c'est très clair. Et des entreprises ont donc aussi du travail normalement pour réunir tout ce personnel et tous ces experts pour un avancement, en tout cas en termes de communication. Donc, la communication n'est pas aussi simple que ça au sein d'une entreprise. Alors, puisque il faut en même temps avoir un chargé de communication numérique et un chargé de communication, est-ce que parfois ça peut pas créer un certain imbroglio en amenant 2 mètres? Parce qu'il faut normalement une stratégie pour l'entreprise dans l'ensemble. Mais si la stratégie numérique s'écarte un peu de la stratégie traditionnelle, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un désavantage pour l'entreprise?
Alors, si une entreprise décide de créer une stratégie de communication, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communication digitale, c'est une partie justement de toute la communication, on va dire, de l'entreprise. Donc, ça veut dire que de base, il doit y avoir une stratégie de communication, mais que dans cette stratégie, on va inclure l'aspect digital et normalement, tout ce qui est digital ne va pas s'écarter finalement de la communication de manière générale. Donc, c'est juste que cette stratégie de communication, elle sera traduite en fait pour s'adapter au digital et à ses codes. Donc, ça ne devrait pas venir en conflit si c'est bien fait.
Alors, communiquer sur les réseaux sociaux, Il faut s'attendre à des résultats, comme d'ailleurs communiquer de façon générale. On s'attend à des résultats. Sauf que sur les réseaux sociaux, les résultats sont parfois observés, sont d'ailleurs généralement observés en termes des likes, en termes de commentaires, voire même de prospects qu'on peut se créer. Il y a des retours. Mais comment vous réagissez-vous quand les attentes ne sont pas, en tout cas, au niveau? Parce que ça arrive hein, qu'on fasse d'ailleurs, on peut se dire voilà, ça c'est ma meilleure publication, c'est mon meilleur poste, mais le retour n'est pas du tout celui qu'on attendait.
Ouais, alors ça c'est le problème en fait de toutes les personnes qui décident de communiquer sur le digital, c'est que de base, bah, comme je l'avais dit au tout début, vu qu'on communique tous sur le digital parce qu'on a tous un compte quelque part sur un réseau social, on a l'impression que c'est facile. Et forcément, quand on dit qu'on a l'impression que c'est facile, on se dit, bon, je vais publier ça, j'aurai 100 likes après, 50 appels, les gens vont se ruer, en fait, vers mon produit et mon service. Mais en fait, ça se passe pas comme ça, parce que ça prend du temps pour déjà attirer les gens, pour montrer déjà qu'on est là, pour montrer à la plateforme qu'on est actif, réveiller l'algorithme, etc. Donc, pour moi, déjà, la première des choses, c'est qu'il faut avoir de la patience. Il faut comprendre que quand on communique sur les réseaux sociaux, bah, comme je l'ai dit, ça prend du temps et c'est sur le long terme qu'il faut s'investir. Moi, ce que je fais, c'est que je pars toujours sur, d'abord, j'élabore une stratégie et c'est une stratégie que je vais tester sur 3 mois. Donc, pendant 3 mois, je vais faire mes publications. Je vais faire mes publications, je vais observer, je vais interagir avec les gens. Et puis, au bout de 3 mois, ben, c'est là que je vais regarder. Enfin, déjà, chaque mois, je regarde finalement les statistiques, hein, voir comment ça a performé, combien de personnes j'ai touchées, etc. Mais au bout de 3 mois, c'est là où je vais faire un bilan et où je vais pouvoir me dire, OK, est-ce que ma stratégie a fonctionné ou pas? Si ça a fonctionné et qu'il y a quand même des ajustements à faire, on les fait et on continue sur la stratégie. Et si je vois que ça n'a pas fonctionné, ben je recommence, je reprends au début en fait, et puis je refais une stratégie. Et puis voilà, il faut toujours tester en fait. C'est les réseaux sociaux ou le marketing de manière générale, moi je dis tout le temps, ce n'est pas une science exacte. Donc ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Mais par contre, aujourd'hui, moi je peux venir et je vous donne un conseil de communication. Ça marche bien pour une entreprise. D'un coup, dans votre situation, ça ne va pas marcher. Donc, on va devoir trouver en fait quelque chose qui va fonctionner en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre entreprise, de votre ADN, etc. Mais il n'y a pas d'autres remèdes, on va dire, que le fait de tester, d'essayer, ajuster, et puis ensuite, on va trouver ce qui va se passer.
En termes de communication digitale, le résultat, ce n'est pas toujours du coup. Et quand un client se présente, on se fixe des objectifs, un planning à long terme ou à moyen terme pour avancer. À court terme, c'est un risque.
Oui, à court terme, c'est un risque. Mais parce que, en fait, souvent, les gens, ce qu'ils veulent dans le court terme,
du coup, les résultats.
La viralité. La viralité. Eux, ils pensent que on va publier ça demain, puis après on a 1 million d'abonnés, mais ça arrive une fois.
c'est pas comme par magie.
Non.
Alors, c'est quoi la meilleure fréquence de publication? Parce que le problème, c'est aussi à ces niveaux-là. Publier très souvent, n'est pas publié. Comment faire? Il y a certaines pages, certaines personnes et voilà, qui se réveillent, qui publient après un mois, mais les résultats sont là en termes de réaction. Et d'autres qui publient tous les jours, non, et vice-versa. C'est quand même compliqué aussi, ça.
Oui, c'est très compliqué de trouver la bonne fréquence de publication. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est que bah, déjà, on a vu qu'il y a tout cet aspect stratégique, en fait, qui est très important. On a des personnes qui débarquent sur une plateforme et puis, comme vous l'avez dit, hein, un mois après, elles ont déjà 5 000 abonnés, 6 000, tout va bien pour elles, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est le temps de préparation peut-être qu'il y a eu avant, la stratégie qu'elles ont pu mettre en place, en fait, au préalable. Et peut-être un temps d'observation qu'elles ont eu sur la plateforme. Okay. Pour d'autres personnes, ça ira un petit peu plus lentement. Ça dépend aussi, en fait, des gens que vous visez, parce qu'il y a des personnes, il y a certains types d'audience qu'on va vite trouver, en fait, sur les plateformes, et puis d'autres qu'on va pas vraiment trouver. Donc, je pense que ce qui est surtout important au niveau du rythme de publication, en dehors de tout cet aspect stratégique, c'est déjà de comprendre que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tous les jours en fait que les gens publient du contenu et énormément de contenu. Donc, si vous vous permettez de publier seulement une fois par mois parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'aimez pas ça, etc., sachez aussi que personne ne vous verra. Et puis, vous passerez vraiment entre les gouttes, en fait. Enfin, personne va vraiment s'intéresser à vous. Donc, ce qui est important, c'est de trouver un rythme qui nous va, qui soit pas trop intense quand on n'est pas habitué, mais qui soit pas non plus trop peu pour que l'algorithme et les gens sur la plateforme ne nous oublient pas. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de publier 3 fois par semaine, au moins, une fois tous les 2 jours à peu près, parce que c'est un rythme auquel, en fait, finalement, on arrive assez bien à s'adapter. Faire 3 publications par semaine, c'est pas trop ni pas assez. Et en général, l'algorithme, en fait, ne va pas nous pénaliser non plus, peu importe la plateforme. Et puis, en fait, j'ai toujours fait ça, que ce soit pour mes clients ou pour les entreprises pour lesquelles je peux travailler de temps en temps. Et ça a toujours bien marché comme ça, en fait.
Alors, créer des contenus, il faut réfléchir, il faut mettre des idées, la stratégie, suivre la stratégie. Et régulièrement, c'est un travail. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un travail qui vous limite, vous aussi? Parce qu'en même temps, vous avez par exemple 3-4 marchés déjà. Il faut créer des contenus pour chaque client. Et parfois, vous risquez de vous oublier vous-même. Et comment gérer ces situations?
Alors, c'est vrai que c'est pas simple. Et pour moi, la solution, bah, finalement, au bout d'un moment, c'est de travailler avec des gens. Donc, d'où le fait que j'avais dit que j'ai quand même des freelances, en fait, qui, même si ce sont des indépendants, mais s'il faut travailler sur certains mandats, je peux, moi, par exemple, élaborer la stratégie et puis finalement superviser un peu tout ce qui va se passer. Et peut-être que tout ce qui va être community management, je vais le laisser, en fait, à un collaborateur avec qui je vais bosser, ou alors par exemple tout ce qui est création de contenu pour les vidéos, les photos, ça je laisse ça à quelqu'un d'autre.
Alors c'est très beau hein, tout ce que vous dites, Jocelyne Kiambi, c'est très beau, mais les gens se poseront des questions pour savoir, c'est depuis quand que vous avez commencé, comment ça a commencé, est-ce que c'était par accident, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les digitales par accident, au départ c'est un métier qui est récent, et au départ quand on est enfant, on a des rêves, mais après c'est autre chose sur terrain, ça a commencé comment, comment vous êtes retrouvé ici?
Alors moi, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire ça assez court. Mmh. Donc moi, mon parcours, il est sur 2 volets. Donc il y a déjà le fait que moi, j'ai étudié l'information et la communication à l'université, okay, en même temps que la psychologie et l'éducation. Donc j'ai un bachelor, une licence, je crois que vous dites, dans ce domaine-là. Donc voilà, donc la communication, c'est quelque chose que je connais parce que je l'ai étudié. Et ensuite, étant donné que les études universitaires, elles sont très scientifiques, très théoriques, moi, je voulais vraiment être sur le terrain. Donc, j'ai continué avec une formation de généraliste en marketing et communication. Donc, ça, c'est le côté études. Mmh. Ensuite, en même temps que je faisais mes études, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup écrire. Et à cette époque-là, bon, j'étais très jeune et je cherchais en fait, c'est vraiment bête, mais je cherchais des conseils en fait capillaires parce que ici ensuite en Suisse à l'époque il n'y avait pas beaucoup de produits pour les noirs en fait. Donc je cherchais en fait des conseils capillaires sur internet et je suis tombée sur les blogs à l'époque et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit mais moi j'aime bien écrire et partager des choses, pourquoi pas créer mon propre blog. J'ai créé un blog et quelques mois après, bah, j'ai commencé à me faire solliciter par des gens qui voulaient lancer des magazines sur le digital. Et à l'époque, c'était vraiment nouveau. Mmh. Donc là, bah, j'ai commencé à rédiger des articles en tant que rédactrice web. Et puis, on m'a proposé de gérer la page Facebook et la page Twitter du magazine. Et c'est comme ça que je suis entrée en fait dans le community management. Mais à l'époque, on est encore au début des années 2010 et il n'y a pas de terme pour ce métier-là, en fait. Mmh. Donc, c'est juste, on gère une page et puis on partage en fait finalement nos articles, on essaye de faire en sorte que les gens nous connaissent et développent la visibilité. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'en fait, il y a quelque chose avec Internet qui peut nous permettre justement de développer des entreprises, de développer des revenus en fait finalement, d'avoir de l'argent et de faire de la communication. Et puis, on peut aussi dire que j'avais étudié, mais j'avais du mal à trouver des stages dans des rédactions de médias ou dans certaines entreprises. Parce que c'était vraiment des domaines où on prenait personne. Quoi. Il y avait des vieux journalistes.
C'est déjà plein, et la plupart des
voilà,
cas.
C'est déjà bouché, en fait. Donc, il n'y avait rien à faire. Et pour moi, Internet, ça a été une chance pour que je puisse justement montrer mes talents, montrer que je connais là aussi la com, que je fais de la rédaction. Et petit à petit, ben, c'est allé comme ça. Mon blog aussi personnel s'est développé. J'ai commencé à travailler avec des marques qui me sollicitaient. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment le pouvoir de tout ça. Et après, avec le temps, ben, j'ai finalement pu faire des stages. Puis j'avais déjà beaucoup d'avance, en fait, dans ce domaine, parce que au moment où c'est arrivé ici, bah, les gens, quand je postulais à ce moment-là, ils voyaient, mais t'as déjà fait ci, t'as déjà fait ça, ben, on va essayer. J'ai travaillé après avec des grands groupes, avec des startups. Je travaille aussi avec une fondation et jusqu'à moi-même me mettre à mon compte et commencer à le faire aussi pour d'autres entreprises.
Donc, c'est parti d'une passion et puis de ce qu'on a à côté, c'est-à-dire l'Internet, les réseaux sociaux, et après, c'est développé. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant votre métier. C'est vraiment très intéressant. J'ai vu que c'était très long, mais il fallait pas quand même te raconter. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Congo ? Qu'est-ce que vous pensez du Congo, de la RDC, et puis de ces métiers dans ces pays ? Est-ce que vous avez de plans ?
Alors, bah, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis angolaise d'origine, mais je viens du nord, des Bas-Congo, en fait. Mes parents ont vécu aussi au Congo, etc. Et du coup, je consomme beaucoup de contenu congolais. Je regarde beaucoup les chaînes YouTube, je regarde tout, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point... alors, c'est pas... tout le temps que les gens arrivent à définir qu'ils font de la communication digitale. Mais par contre, c'est juste impressionnant de voir tout ce qui a été développé finalement dans ce sens-là, même si des fois, c'est pas toujours... des fois, c'est fait un peu de manière autodidacte, c'est pas toujours fait de manière très professionnelle, mais ils arrivent à avoir des résultats qui sont juste impressionnants, en fait, et que des fois, nous, ici, on n'arrive pas à voir, pour être honnête. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros potentiel. J'avais travaillé d'ailleurs avec une entreprise que j'avais accompagnée en fait à distance, qui est sur place en fait au Congo. Et franchement, moi je suis assez ouverte en fait à travailler aussi, accompagner des personnes qui sont là-bas. Pourquoi pas peut-être un jour s'y rendre. Je n'y ai encore jamais été. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment une dynamique qui se met en place, qui est à encourager et qui est aussi, je trouve, un vecteur si on investit là-dedans pour le développement. Moi, j'ai vraiment l'impression et j'ai vraiment foi dans le fait que le digital peut être un développement pour l'Afrique.
Un véritable, en tout cas, facteur de développement. On est déjà arrivé à la fin de notre entretien. Jocelyne Kiambi, un plaisir de vous recevoir. On espère que le futur sera encore meilleur. Moi, je vous inviterai, fidèles auditeurs, d'aller jeter un coup d'œil sur son LinkedIn. Énormément d'astuces et des conseils. J'ai lu tout le jour et j'apprends tout le jour déjà énormément. C'est vraiment intéressant. Mais avant de se quitter, est-ce qu'il y a de futurs projets ? Qu'est-ce qui viendra après pour vous ?
Alors, des projets, ben, il y en a toujours. Mais ben, déjà, continuer à développer mon agence, parce que c'est vrai que pour l'instant, elle a une année en fait. Donc, j'ai vraiment envie de développer ça. J'ai aussi envie de continuer à développer ma marque personnelle. Et puis, pourquoi pas, donc ça, je le dis un peu en exclusivité, on va dire, mais pourquoi pas lancer un média en ligne. Ça, ce serait aussi un complément, je trouve, ce serait pas mal. Et toujours, en fait, dans cette envie de continuer éduquer, partager mes connaissances en fait dans ce domaine.
En tout cas, merci beaucoup. Alors déjà, donc je comprends que vous êtes angolaise malgré le nom de Nkiambi. C'est pas pour la RDC,
même ouais, si. Ouais, mais Mukongo en fait, donc oui. Pas grand-chose.
C'est en tout cas un même peuple. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de passer ces minutes avec nous, fidèles auditeurs. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en dehors du pays, partout dans le monde. Ce soir, c'était avec Jocelyne Kambi, la communication digitale, il fallait un peu plus en parallèle. J'espère que vous avez beaucoup appris. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle thématique.